Gaston Rebuffat, vous connaissez ces phrases, elles sont de vous. De nos jours, peu de choses subsistent. La nuit n'existe plus, ni le froid, ni le vent, ni les étoiles. Tout est neutralisé. Et vous posez cette question, où est le rythme de la vie? Alors où est-il?
Bien, je crois que par la force des choses, si vous voulez, premièrement, tout est allé très vite. Ça s'est accompagné d'une séparation de l'homme avec la nature. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis fonction de la nature. En ce sens que, pour vous, par exemple, pour beaucoup de personnes, j'espère pour toutes, un coucher de soleil est une belle chose. Il y a un peu de tristesse, mais c'est aussi une promesse. Et c'est ce en quoi un coucher de soleil est un très beau spectacle. Cependant, pour moi, ça veut dire... plus que ça, si vous voulez, la façon dont le soleil se couche, ça sous-entend que la neige sera dure ou sera pas dure, qu'il va faire très froid, que la neige sera bien prise par conséquent, ou le contraire. Si la neige est bien prise, m'accorder le lendemain matin, vous savez qu'on part, selon la course envisagée, entre 1h et 5h du matin, m'accorder marchera facilement, parce que les pieds ne glisseront pas, on n'enfoncera pas dans la neige molle. Et d'autre part, il n'y aura pas de danger. Ça veut dire que les ponts de neige seront solides et que la neige, n'étant pas ramollie par le soleil, ne risquera pas de couler en avalanche. Autrement dit, vous voyez que pour moi, je suis étroitement en fonction du soleil. Voilà, alors j'ai cette chance. Il est clair que, c'est exact pour mon métier, mais que pour des tas d'autres personnes, bon, on n'est plus fonction du soleil. Le soleil qui est une chose qui, en fait, au fond, nous est donnée, et que bien souvent, on a tendance à considérer comme si c'est dû, quoi.
Oui, mais lorsque vous dites « la nuit n'existe plus, ni le froid, ni le vent, ni les étoiles », les étoiles, la nuit, je veux bien, mais le froid et le vent, lorsqu'on voit ces photos d'hommes accrochés à des sommets...
Non, pour nous, ça existe, justement. Et moi, j'aime bien avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud. C'est un peu comme les bêtes. Si vous voulez, j'aime beaucoup les bivouacs, par exemple. J'ai eu la chance, déjà, quand j'étais jeune... d'avoir à bivouaquer pour mon propre plaisir. Puis après, j'ai bivouaqué des tas de fois, bien sûr, en montagne, en bordure de mer ou dans le désert. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, de dormir, d'une part, le dos à la terre. Et c'est un peu enfantin de dire, mais c'est aussi un plaisir de sentir la terre qui tourne dans son dos. Et d'autre part, de faire confiance, d'avoir rien au-dessus de soi, de ne pas être bouclé par quelque chose. Et puis le soleil s'en va d'un côté, on tourne la tête, et le lendemain matin, il revient de l'autre, et d'être réveillé comme les bêtes, comme le grain de sable, comme le flocon de neige, si je puis dire, de vivre comme eux, d'être pas plus qu'eux, autant qu'eux, et d'être au diapason, d'être accordé, si vous voulez.
Gaston Rebuffat, jusqu'à quel âge peut-on être guide? Quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 49 ans, je suis guide depuis 1942, ça fait donc 28 ans. Et on peut être guide jusqu'à l'âge de 60 ans. Après quoi, on peut passer certaines visites médicales. Et vous avez à Chamonix, je dis Chamonix parce que là, je le sais, mais je suppose que c'est pareil en d'autres lieux, des personnes qui continuent à faire le guide, même avec un âge plus avancé.
Comment devient-on guide? C'est une vocation de départ dans
Alors,
votre jeunesse. Car
si
vous êtes chamoniard d'adoption, mais vous n'êtes pas... Vous êtes de Marseille, je crois.
C'est juste. Alors, pour moi, c'est un peu à part, si vous voulez. Premièrement, je vais parler des chamoniards. Les chamoniards, bon, le besoin, quand la conquête de la montagne s'est faite, déjà sous l'impulsion du savant Genevois de Saussure, c'était en 1740, la première fois qu'il est arrivé à Chamonix, qu'il a eu la révélation du Mont Blanc et qu'il a eu envie d'y grimper. Prenant comme prétexte, si vous voulez, d'y lire son baromètre. Car pour un homme de sa condition, à cette époque-là, il portait une perruque. C'était donc insensé de se fatiguer, de suer, si vous voulez. Bon, donc il a fait le prétexte, c'était le baromètre. Bien, il lui a donc fallu des guides. Et c'est ainsi, si vous voulez, un peu sous l'impulsion de Saussure, que le métier de guide s'est créé. Et que dans les stations de montagne, que ce soit à Chamonix, à Courmayeur, à Zermatt, à Pralognan, à la Bérarde, donc se sont créées des compagnies de guides. En ce qui me concerne, c'est un peu à part. Moi, vous avez raison, je suis né au bord de la mer, je suis né à Marseille. En fait, plus qu'à Marseille, je suis né dans les Calanques. Les Calanques, c'est un tout petit massif, c'est à peine 125 000 km², qui se trouve entre Marseille et Cassis. Et c'est un lieu où la nature a su se préserver d'elle-même. En effet, dans ce petit massif, il n'y a pas de terre, il n'y a que des pierres. Et le sol est loin d'être plat. C'est un sol qui est très tourmenté, il y a des talwegs très profonds, très tortueux, qui fait qu'aujourd'hui encore, grâce au ciel, et j'espère que ça durera. Pas pour moi, j'ai connu les Calanques, mais il s'agit de sauver l'héritage pour les autres. Les Calanques étaient un lieu où la nature était tout à fait vierge, si vous voulez. Et c'est là où j'ai commencé donc à me promener, à respirer, à me sentir un peu accordé justement au vent. Des fois, c'est bête, mais il y a un plaisir de marcher contre le vent. Et puis après, avec intelligence, de réfléchir et de dire, bon, ben là, je vais m'abriter pendant un certain temps, je pourrais cheminer, puis à nouveau, de passer d'une crête à l'autre, si vous voulez. Et par la force des choses, peu à peu, j'ai été amené à grimper, premièrement pour mon chemin. Et puis ça m'a plu. C'est un peu une boutade, et dans une boutade, il y a une part de vérité et une part de... Bon. Tous les enfants, c'est très instinctif de grimper. Si vous réfléchissez, au fond, tous les enfants qui ont...
Grimper sur une chaise, déjà.
Mais bien sûr. Mais l'alpinisme, c'est quoi? C'est grimper, les enfants grimpent aux fenêtres, ils grimpent aux arbres, aux murs, aux chaises. Pourquoi? Un, pour le plaisir de grimper. Et deuxièmement, c'est pour le plaisir de voir plus loin, d'un peu plus haut, de découvrir. L'alpinisme, c'est rien d'autre. Alors, j'ai commencé à grimper dans les Calanques. Les Calanques, c'est aussi la mer. C'est une présence très exceptionnelle, les Calanques, car c'est un lieu où il y a la rencontre exceptionnelle des deux grandes lignes simples. En effet, comme le long des plus belles aiguilles de Chamonix, dans les Calanques, il y a la ligne verticale qui donne la profondeur du ciel. Mais coupant cette ligne verticale, il y a l'horizon des espaces marins. Et l'horizon des espaces marins, ça suggère l'infini aussi. C'est une ambiance très très belle, très prenante. Et c'est peut-être pour ça que... Dieu sait, il faut choisir dans la vie. Alors, j'ai choisi, quand j'avais 10 à 18 ans, 19 ans, de devenir guide, d'en faire mon métier. Mais je savais aussi que j'écartais un certain nombre de choses et je comprends très bien qu'on aime la mer, qu'on aime la spéléologie. Loin de moi, l'idée de limiter à la seule montagne.
De quel milieu venez-vous?
Alors, je suis d'un milieu simple. Mes grands-parents, que je n'ai pas connus, et c'est toujours un manque de ne pas connaître ses grands-parents, mes grands-parents étaient paysans dans le Haut-Var, à Riens. Riens, c'est un petit village de Haute-Provence, donc, où la nature est très belle. Et des tas de fois, mon père m'a eu emmené pour... Et on partait de bonne heure. Et des tas de fois, j'ai vu le lever du jour avec lui, grâce à lui, si je puis dire. Et c'est quelque chose de voir le lever du jour. C'est tellement dommage que... J'allais dire que l'existence actuelle fasse qu'on ne voit plus le soleil se lever. Et c'est un grand spectacle, c'est quelque chose, le lever du soleil.
Gaston Rebuffa, vous avez une formation universitaire?
Non.
Vous avez beaucoup écrit, vous avez de la facilité pour parler.
Je ne sais pas, oui.
Comment avez-vous appris tout cela?
J'ai rien appris, j'invente rien, là, je viens de vous fondre, dans tout ce que je vous ai dit.
J'ai lu vos livres, oui. Entre ciel et terre. Oui. C'est de la poésie.
Non, mais pas du tout. Non. Quand je viens de vous dire, par exemple, que voir se lever le soleil, c'est un spectacle, j'invente rien. Ça m'a plu et ça me plaît. Et par la suite, je me sens pas seulement spectateur, mais parent, si je puis dire, avec le soleil, avec la nature, avec... Voilà, c'est comme ça.
Lorsque vous vous trouvez à Paris, vous devez être terriblement malheureux.
Non plus, mais non. Chaque chose en son temps, chaque chose... c'est pas pour avoir l'air d'être généreux, mais ce serait bête de... Premièrement, on ne peut pas nier Paris, ça existe. J'ai vécu 12 ans à Paris, j'habitais rue des Grands Augustins, et ça me plaisait énormément, la Seine était à côté, et puis il y a la nature, bien sûr, mais la vie, ce qui est très dommage, c'est que les gens n'aient plus suivi la nature, qu'ils se soient séparés d'elle. Les hommes sont de plus en plus étrangers sur la Terre. C'est dommage pour eux. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la beauté de certaines avenues, de certains lieux créés par les hommes. Il ne faut pas les mettre en opposition avec la nature. C'est deux choses qui peuvent très bien se compléter et pas s'opposer.
Pour vous, Gaston Rebuffa, le rêve est devenu une réalité.
Oui, c'est vrai.
C'est beau d'aller à la recherche du rêve, de courir après lui.
Mais c'est un rêve. Alors moi, je suis pas sûr que ce finalement soit un rêve. En ce sens que, quand un enfant naît, il naît avec un éventail très ouvert de possibilités, d'éventualités. Et puis je crois qu'il se trouve que les parents, l'école, l'instruction, l'éducation, la société, c'est comme ça, c'est rien une critique, c'est plus une constatation. Et le progrès font que toutes ces merveilleuses éventualités qui sont au fond de chaque être, finalement, dorment gaspillées. Bon. Kipling a dit « Ce que je sais, je l'ai payé son prix ». Bien. Mais la nature nous a pourvus pour payer le prix. Par conséquent, moi j'ai eu la chance, au fond, quoi ? Si je vous dis que de grimper, même une paroi verticale, et c'est rien de la fausse modestie, pas plus que vanité. L'un est aussi bête que l'autre. Ça ne me demande pas un grand effort, je suis doué pour ça. Et c'est comme ça. Bien. Eh bien, j'ai eu la chance, donc, avec la parenté de la nature, soit d'une part à cause de riance, soit d'autre part surtout à cause des calanques, de ne pas me séparer au fond de la nature et non seulement d'être spectateur, mais de continuer à éprouver une sorte de parenté. Ça, c'est une chose. La deuxième, j'ai eu une deuxième chance, c'est de ne pas, si je puis dire, gaspiller certaines possibilités que j'avais en moi. Supposons qu'on vous dise, même pendant l'émission, il y a le feu à votre maison, il y a votre femme, vos enfants, vous allez devenir champion de 1000 mètres, tellement vous courrez vite. Bon, ça veut dire que moi, j'ai eu peut-être la lucidité de me conserver ces possibilités, d'utiliser ce que la terre m'a donné, ce que la nature m'a donné.
Et pour vous, la montagne, c'était la liberté, surtout.
C'est une forme de liberté. Moi, d'ailleurs, quand des fois il est question de réglementer l'alpinisme, je trouve ça, premièrement, c'est impossible. Et heureusement. Et deuxièmement, je trouve que c'est bête. L'alpinisme, c'est une grande liberté.
Et tout le monde peut se dépasser. Dans votre livre, qui vient de paraître chez Hachette, Glace, Neige et Roc, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci. La jeunesse pour vivre doit avoir un grand désir. Quand j'avais 15 ans, dites-vous, j'étais aussi grand que maintenant et plus mince. J'avais peu de force dans les bras. Je n'arrivais qu'avec peine à faire un rétablissement. Pourtant, je désirais tellement devenir alpiniste et un jour peut-être devenir guide. Cela veut dire que tout le monde peut se dépasser.
Bien sûr, mais c'est même pas... Pardon. C'est pas se dépasser, c'est simplement...
S'affirmer.
C'est simplement utiliser ce qui est en nous. C'est profiter, au fond, de... Enfin, j'allais dire, de ce que la naissance nous donne et de ne pas le laisser dormir.
Est-ce que vous avez eu peur, souvent ?
Oui. Enfin, souvent, non, mais j'ai eu peur un certain nombre de fois.
Je crois qu'il ne faut pas confondre la difficulté et le danger
oui.
dans l'alpinisme.
Oui, oui, mais c'est vrai pour l'alpinisme et c'est vrai pour toute chose. Moi, je pense que la notion de difficulté est une notion saine et virile. Bon, et je crois d'ailleurs que le propre de l'homme, et c'est ce qui le change par exemple des machines, mais le propre de l'homme, c'est d'aimer les difficultés. Bon, et il est heureux que dans tous les domaines, quand vous me parliez de Paris, je suppose quand on arrive à réussir certaines choses dans cette ville, que ce soit en son temps pour les constructeurs, en son temps pour les urbanistes, pour toutes les personnes, bon, il y a des difficultés, on est heureux de vaincre une difficulté. C'est ça, au fond, le propre de l'homme. Bon, et c'est bien. Par contre, le danger, c'est bête. C'est facile d'aimer le danger, c'est morbide et c'est malsain, quoi. Moi, je trouve... je suis rien pour le vivre dangereusement. Construisez votre maison sur le Vésuve, non. Parce que c'est faux, c'est inexact, ça n'apporte rien, quoi. S'il y a la foudre en montagne, c'est un danger. Je ne suis pas maître de la foudre. Bon, ça veut dire que j'ai peur et que j'essaye de fuir et m'accorder avec moi le plus vite possible. J'ai fait face à de l'Aiger. Et j'étais parti une première fois avec Pierre Leroux, qui est un guide de Chamonix. Tous les deux, nous étions en grande forme, prêts à affronter, à gravir les fissures les plus difficiles, les plus surplombants, si je puis dire, quand tout à coup, nous avons été stoppés, non par une difficulté, mais par un danger, par des chutes de pierre. Bon. Nous avons regardé d'où elles venaient. Elles ne tombaient pas constamment. Nous aurions pu peut-être essayer de passer entre deux chutes de pierre. Nous avons hésité. Finalement, on ne l'a pas fait. Autant il nous est agréable dans notre fort intérieur de gravir un passage extrêmement dur, autant moi j'aime pas me mettre en face de quelque chose que je contrôle pas. Et je trouve que c'est facile. Ça n'a rien à voir. La plus belle technique, la meilleure expérience ne prévale pas contre les pierres. C'était mieux de faire demi-tour.
Gaston Rebuffat, un guide qui entraîne une cordée a une grande responsabilité.
Ben, il a la responsabilité des gens qu'il a pris en charge. Ça, c'est son métier. Il doit donc, d'une part, bien sûr, le ramener entier. Et puis, il doit organiser la course de manière à ce que la personne qui, pendant un hiver, ou même parfois des hivers entiers, a rêvé donc, de faire telle ascension, il doit essayer de faire en sorte pour que cette personne, non seulement arrive en sécurité, mais arrive en bonne forme, de manière à avoir les yeux bien ouverts, à bien profiter de l'ascension.
Il y a une expression qui vous agace, c'est l'exploit gratuit. Souvent, lorsqu'il y a un accident, on dit « ils sont allés là-haut, ils sont morts là-haut ou en bas, il faut aller les chercher, et d'autres hommes vont peut-être mourir pour aller les sauver ».
Alors, c'est difficile de détruire les légendes ou pas détruire, mais d'aller contre les légendes. Il est certain qu'il y a des accidents. Bien. Cependant, c'est pas moi qui parle, si je puis dire, c'est les statistiques. Quand on dit qu'il y a des hommes qui vont risquer leur vie pour aller chercher d'autres, c'est pas tout à fait exact de dire on va risquer sa vie. Moi, j'ai fait partie de quelques caravanes de secours et il est certain que c'est pas agréable. Il est certain que c'est pas gai d'état. Ça, c'est des raisons. Mais de là à risquer sa vie, s'il fait beau temps, bon, ben, pour faire une ascension, on risque pas tellement sa vie. Deuxièmement, si on est compétent. Deuxièmement, s'il fait mauvais, il est clair que même les gens les plus forts peuvent pas y aller. Par conséquent, on doit attendre. Et par ailleurs, il y a aussi une chose. Moi, ça me plaît assez que, même en 1970, bon, ben, des hommes fassent quelque chose pour des autres qui sont en panne. Si c'était le contraire, mais ce serait une époque terrible.
Il y a combien de guides en France ?
Ah là là, je pense que c'est de l'ordre de 350. Je suis pas tout à fait sûr.
Est-ce que pour un homme, ce métier est une promotion sociale ?
J'en sais rien, ça. Je ne saurais pas vous dire si c'est une promotion sociale. Pour faire le guide, il faut que ça vous plaise, d'abord. C'est un très beau métier, moi, qui m'a apporté de très, très grandes satisfactions. Je l'ai dit plusieurs fois, le guide est amené à refaire, des fois dans un même été, sinon dans plusieurs étés différents, mais la même ascension. Si le guide ne grimpait que pour son propre plaisir, comme tout logiquement d'ailleurs le fait l'alpiniste, bon, très vite, il serait volé, il se dégoûterait de son métier. Par contre, le propre du métier de guide, bon, supposons, après cette conversation, la montagne vous plaît, vous vous entraînez de votre côté, et vous me dites, bon, ben, je voudrais faire le grépon. Bien, moi, le grépon, je l'ai fait, je sais pas, 20 fois, si c'est pas plus. Être grimpant, ça me plaira, parce que je suis au grand air, parce que je suis dans mon milieu. Bon, grimper, ça me plaira, parce que ça me plaît aussi de grimper. Mais le grimpant lui-même en soi, ne m'apportera plus grand-chose. Par contre, si je regarde le grimpant dans vos yeux quand vous, vous serez au sommet, ça, c'est quelque chose. Donc, mais voilà, ça, c'est le métier de guide, si vous voulez.
Est-ce que les guides gagnent bien leur vie ?
Alors, je vais être précis, vous allez voir. Je crois que pour faire l'ascension du Mont Blanc, l'été dernier, ça devait être tarifé, et les tarifs sont des tarifs homologués, c'est indiqué au bureau des guides et dans tous les hôtels à Chamonix. Pour faire le Mont Blanc, ça devait coûter dans les 400 francs. Bien, pour faire le Mont Blanc, il faut 2 jours. On peut dire que dans un été, la période en général où il y a beaucoup de monde, c'est du 14 juillet au 15 août. En supposant, ça s'est jamais vu, en supposant qu'il fasse beau tous les jours, ça s'est jamais vu, entre 14 juillet et 15 août, un mois, donc on arriverait à faire 15 Mont Blanc.
15 courses.
15 Mont Blanc. Et le Mont Blanc, je ne dis pas que c'est surtarifé, mais enfin, c'est déjà une course avec un prix moyen assez élevé, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, il est clair qu'il y a des courses qui sont à un tarif plus bas, et puis il y a des courses qui sont à un tarif plus élevé. Mais pour faire les courses à un tarif plus élevé, il faut 2 choses. Il faut premièrement avoir les personnes compétentes, avoir pu amener, former les personnes pour qu'elles puissent faire ces courses en sécurité et surtout avec plaisir, ou tout autant avec plaisir. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait le beau temps et les conditions. Car certaines courses, bon, si elles restent enneigées, certaines faces nord, par exemple, faces nord des Jorasses, il y a des étés où elles sont en très bonne condition et on les gravit normalement, et puis il y a des étés où les conditions sont si mauvaises qu'on ne peut pas du tout aller aux Jorasses.
Enfin, la montagne a entraîné de nouvelles incidences économiques, car les guides, l'été, sont moniteurs de ski l'hiver.
Alors, c'est le ski, c'est la montagne d'hiver, plus parce que les guides, premièrement, c'est juste de dire qu'il y a donc la compagnie des guides a été fondée de Chamonix, c'était la première au monde. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est 1800 au début du 19e. Bon, ça fait à peu près 100. Non, 1823, je crois. Et donc, ça fait un siècle et demi. Donc, c'était déjà un nouveau métier, si vous voulez, qui était créé sur la Terre. Mais ce n'est rien par rapport à la quantité de moniteurs de ski. Il y a beaucoup plus de moniteurs de ski. Et il y a d'ailleurs beaucoup plus, c'est une logique, il y a beaucoup plus de skieurs, de clients skieurs, qu'il n'y a de clients montagnards. Et comme le métier fonctionne de la demande, comme c'est vrai pour la montagne et c'est vrai pour tous les métiers, donc il y a beaucoup moins de guides qu'il n'y a de moniteurs de ski.
Gaston Rubuffat, est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué une autre carrière ?
Ben, là, je viens de faire, enfin, depuis 2 ans, avec mon ami Paolini, nous travaillons sur une série qui s'appelle La Rencontre du Soleil, et dans laquelle le premier sujet, c'est Face au ciel, face au vent.
Pour la télévision.
Pour la télévision. Et pour Cazeneuve. Et alors, on est allé avec Tabarly pour faire des images, donc, de mer. Et moi, enfin, j'ai dit au début, je crois avoir dit, que quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'ai choisi de devenir guide, sachant que j'écartais beaucoup d'autres choses. Bien, eh bien, j'espère bien, avant que je sois trop âgé, j'ai encore du temps, heureusement, faire une belle traversée, même comme bonne à tout faire, sur un Penduic, si un skipper veut bien m'emmener, quoi. Ça, non, il y a tellement de choses qui sont... Il n'y a pas que la montagne, c'est évident. Quoi.
C'est ce goût de l'aventure qui vous guide, qui vous pousse.
Oui, c'est peut-être l'aventure, mais...
C'est beau l'aventure, d'ailleurs.
Vous avez raison. Toutefois, je reviens un peu à ce que je vous disais. J'ai au fond une chance, une sorte de lucidité, je crois, qui est d'avoir aimé la nature, parce que je suis né, si je puis dire, dans les Calanques, et de m'être rendu compte qu'on a chaque personne, s'il ne laisse pas trop dormir, ou s'il arrive, parvient à le réveiller, a une certaine quantité de force, de pente, dont il peut profiter. La nature lui a donné. Bon, comme l'écureuil saute de branche en branche, au début, quand il naît, l'homme a un certain nombre de possibilités. Il ne le sait pas. Le malheur, c'est que bien souvent, il faut des... Je parlais de l'incendie. Il faut donc des situations qui nous sont anormales. Et c'est assez terrible de dire vous allez devenir peut-être un bon coureur à pied si tout à coup, il y a le feu chez vous. Et voilà. Peut-être que j'ai eu cette chance d'utiliser... Ce que je vous avais lu tout à l'heure dans le bouquin, c'est tout à fait juste. J'avais pas des gros bras, et même aujourd'hui encore. Mais quand quelque chose vous plaît, et si peu à peu vous accrochez... ça vient tout seul. Finalement, j'ai même pas fait d'efforts, ou pas beaucoup, en tout cas.
Gaston Rubuffat, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes qui ne savent pas regarder ni le ciel, ni la montagne, ni la mer, ni même les animaux, qui ne sont pas curieux?
Si vous voulez, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage parce que les animaux, ils sont là, les arbres sont là, c'est beau. C'est dommage et il me semble qu'au fond... La faiblesse de l'homme par rapport aux machines que l'homme a créées, c'est quoi ? C'est que l'homme peut et a besoin de s'émerveiller. Qu'est-ce qui peut nous émerveiller ? Qu'est-ce qui peut nous étonner ? Il y a donc les créations de l'homme. C'est-à-dire, on est allé dans la Lune, par exemple. Mais l'homme a créé des choses extraordinaires, mais il n'arrive pas à créer une fourmi, il n'arrive pas à créer un séquoia. Un séquoia, c'est quoi ? C'est un arbre qui est grand comme... deux fois au moins le studio ici, qui fait entre 100 et 120 mètres ou 140 mètres de haut, et qui a entre 2 et 3 000 ans. C'est un émerveillement. Et je crois qu'on ne peut pas... Je dis les séquoias. Les fourmis, c'est pareil. On a besoin de ça. La meilleure preuve, c'est que dans la plupart des maisons, il y a ou un bouquet de fleurs ou une plante verte. Et dans des appartements surchauffés, il y a même une cheminée.
Dans votre livre, qui vient de paraître chez Hachette, Gaston Rubuffat, Glace, neige et roc, il y a d'admirables photos. Et celle qui est devant moi est assez étonnante. Il y a d'abord cette paroi à pic, et ensuite vous qui êtes parallèle à cette paroi. Et je n'arrive pas à savoir comment vous tenez aussi délibérément un équilibre. Il y a une technique.
Oui, il y a une technique, il y a une lucidité. La paroi, vous avez dit qu'elle était à pic. En fait, elle est un peu moins que verticale. Alors, maintenant, comme matériel, nous utilisons des chaussures qui sont, nous disons, armées. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la semelle, il y a, on dit aussi, une cuillère en acier. Donc, on a des chaussures parfaitement rigides. Si vous mettez le bout du pied sur une prise, grâce à la rigidité de la semelle, mettons que la prise ne fasse que 3 cm de profondeur. Grâce à la rigidité de la semelle, vous avez tout le pied qui est horizontal, en crispant le mollet. Si vous vous imaginez après le corps droit du grimpeur sur ses pieds, vous voyez que si la paroi est un peu moins que verticale, vous imaginez le grimpeur bien lui-même vertical, si la paroi est un peu moins que verticale, il n'y a donc pas besoin de se tenir avec les mains. Et des tas de fois, alors les débutants bien sûr ont un peu peur, ne s'en rendent pas bien compte. Et moi, des tas de fois, quand j'emmène des personnes qui commencent à grimper, au milieu de l'escalade, je leur dis « Bon, mais maintenant, vous vous lâchez des mains. » Ils disent « Mais c'est pas possible. » J'ai dit « S'il vous plaît, vous vous lâchez des mains. Prenez conscience que vous tenez, pourquoi vous tenez. » Et je dois dire, ça leur fait faire des progrès considérables, de se rendre compte que les mains, en fait, en montagne, ne sont là que pour maintenir l'équilibre arrière-avant du haut du corps, pour éviter que le haut du buste tombe en arrière, si je puis dire, mais pas pour tirer sur les bras. Car il est clair que même si on prenait le champion du monde de barre fixe, de corde lisse, tout ce que vous voulez, réuni, et que vous le chargiez d'un sac de montagne sur le dos et que ça se passe en altitude, bon, ben, même tout en étant champion du monde, il ne ferait pas 100 ou 200 ou 300 rétablissements seulement sur les bras. C'est pareil pour nous. Par conséquent, l'alpiniste ne tire pas son corps à la force des bras, mais il le dresse sur les jambes. Les jambes, c'est solide. C'est un peu comme si l'on gravissait un escalier très raide, presque vertical.
Oui, mais Gaston Rebuffat, dans cette affaire, vous refusez toute notion de vertige.
Alors, oui, ça c'est évident, si vous voulez. Mais encore là, encore, le vertige, c'est une chose... je ne suis pas bien compétent. Il faudrait un médecin pour bien parler du vertige. Le vrai vertige, c'est un trouble physiologique. En général... c'est quelquefois une malformation dans l'oreille. Le vertige, cependant, peut aussi être provoqué par une température changeante, même à fleur de peau sur le visage. Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer le vertige. Bien, ceci étant, il y a, mettons, 5 personnes sur 100 qui ont le vertige tel qu'on vient d'en parler, et toutes les autres ont, plus ou moins, l'appréhension du vide. Le massif du Mont-Blanc est un massif granitique. Les massifs granitiques ne sont pas aussi verticaux sur de très, très grandes hauteurs que ne le sont les massifs calcaires, les Dolomites par exemple. Bon. Moi, je suis guide à Chamonix, donc dans un massif granitique. Eh bien, quand je vais dans les Dolomites, pendant les 2 ou 3 premiers jours, le long de ces parois calcaires, qui, elles, d'un seul jet, ça veut dire géométriquement, sans le moindre gradin, sont verticales et parfois en surplomb, et ça peut très bien se gravir, parce que le calcaire est plus fourni en prise que ne l'est, il est moins compact que ne l'est le granit. Bien, eh bien, j'ai l'appréhension du vide. Il me faut 2 ou 3 jours pour me dire, pour que je prenne conscience, bon, ben, qu'il y a ce vide sous mes pieds, pour que je prenne conscience comment je tiens, pourquoi je tiens. Et après, je ne dis pas que c'est un plaisir, mais c'est aussi quelque chose d'évoluer, d'enchaîner des jolis mouvements dans un grand vide.
Gaston Rebuffat, il vous arrive de rêver que vous êtes sur une paroi, que...
Rêver quoi, vous voulez dire dans la nuit, oui. Ou... Non, je ne crois pas, ça, non. Non, je n'ai jamais rêvé de... Non, je ne crois pas.
Il y a une grande époque dans votre vie. C'est la Chenal, c'est Herzog, c'est Terray.
Oui, oui.
C'est
oui.
La passe de 4, c'est l'exploit que l'on disait irréalisable, c'est l'Annapurna.
Alors, oui, c'est vrai, c'était il y a 20 ans déjà. Et c'est, oui, on vient d'apprendre, c'est hier au fond, que 4 jeunes guides et moniteurs d'école nationale, justement, sont parvenus à l'Annapurna. C'est Maurice Jiquel, Gérard de Wassou. Je crois qu'Yvan Mazinot a été un peu souffrant, donc il n'a pas pu aller. Mais sinon, il est également très, très fort. Et Payot. Tous les 4, ce sont donc... ce sont des professionnels. C'est-à-dire, ce sont des guides qui gagnent leur vie. Et c'est très bien comme ça. Souvent, on dit, parce qu'on gagne, on touche de l'argent en faisant un métier comme le guide, soi-disant, on croit qu'on aime que ceux qui font ça aiment moins la nature ou même la montagne que les autres. Eh bien, premièrement, ce n'est pas exact. Et deuxièmement, ces quatre jeunes, des tas de fois, ont fait des courses entre eux dans le massif du Mont-Blanc ou ailleurs. Et là, ils viennent d'aller aussi entre eux, donc tout en étant guide, de prendre sur leur temps pour aller là-bas et de réussir cette grande ascension.
C'est le prolongement de ce que vous aviez fait vous-même.
Vous savez, on est toujours, et c'est très bien comme ça, on est toujours les héritiers des pionniers, des gens qui nous ont précédés. Et c'est d'ailleurs un des plaisirs. Ça doit exister dans d'autres métiers, c'est évident. Mais un des plaisirs de ce métier, c'est cette sorte, je vous le disais tout à l'heure, de conscience commune que l'on retrouve à travers différentes générations.
Vous n'avez pas l'impression, Gaston Rebuffat, que c'est avec l'Annapurna que le monde a senti la cause de l'alpinisme?
Alors, moi, je suis mal placé. Vous êtes mieux placé, au fond.
Moi, je le crois.
Pour dire ça, il est certain que l'Annapurna a eu un retentissement important. Ça, c'est clair.
Est-ce que vous étiez conscient de l'exploit que vous réalisiez?
Alors, à nouveau, si vous voulez, c'est... Comment je pourrais dire? Ça paraît bête de... C'est pas bien un exploit, car finalement, Maurice était très fort grimpeur. Il n'était pas guide, mais très fort grimpeur. Louis était très fort, Lionel était très fort. Moi, je peux dire que j'étais fort aussi. Bon, on était entre nous. C'était une découverte extraordinaire parce que c'était les montagnes dont on avait rêvé pendant des années. On était dans un pays où aucun homme blanc, enfin venu de l'extérieur, n'était jamais venu. Moi, je dois dire d'ailleurs, ce qui m'a le plus marqué, c'est la marche d'approche plus que l'ascension elle-même. Faire le guide tout un été, c'est moins spectaculaire, mais finalement, c'est plus dur que d'aller à l'Annapurna. L'Annapurna, on était entre amis.
C'est un bel hommage au guide.
Mais c'est seulement exact. Non, c'est seulement exact. Le guide, il est responsable de quelqu'un. Là, l'Annapurna, je ne dis pas qu'on n'était pas responsables les uns des autres, c'est évident. Mais enfin, si on se changeait en tête de cordée, on faisait la trace à tour de rôle, et strictement sous l'angle difficulté technique, il n'y avait pas de très grande difficulté technique, loin de là. Donc, il y avait plus tout cet ensemble de cette montagne lointaine, auréolée, et très belle, parce que surtout, on en avait rêvé.
Quelle était la hauteur?
8075. Mais alors, pour être juste aussi, je dois vous dire, c'est que déjà en 24, Mallory avait atteint 8500 mètres d'altitude sur les flancs de l'Everest. Il n'avait pas atteint le sommet. Mais déjà en 24, des hommes étaient allés à des grandes hauteurs.
Il y a une grande modestie chez vous.
Mais non, mais je ne suis rien modeste, ce n'est pas vrai, je suis exact. C'est seulement juste de dire ça. Pourquoi ça n'enlève rien à ce que j'ai pu faire, ou à l'Annapurna, ou...
Et la souffrance?
Comment la souffrance? Ah, ben la souffrance, alors, c'est surtout... Alors là, c'est plus Maurice et même Louis qui auraient pu en parler, puisque c'était eux qui ont été atteints particulièrement et mutilés par la suite.
C'est grave.
C'est grave, bien sûr que c'est grave, oui.
Et quand même, ils en conservent le plus grand des souvenirs.
Ben, je crois, je vous disais, enfin, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on en avait rêvé, on nous aurait dit, il faut y aller pieds nus. Bon, on aurait levé le doigt en disant, monsieur, je veux y aller. Voilà, bon, ben, c'est comme ça.
C'est beau d'aimer son métier.
Ben, oui, mais ça se fait tout seul, en plus. On ne s'est pas forcé. La meilleure preuve, j'ai dit bien, c'est qu'on en avait tellement envie. Donc, si on nous avait dit, si on nous avait poussé pour y aller, peut-être qu'on aurait... À nouveau, ce n'est pas du tout une question de modestie, c'est seulement une question de lucidité. On nous aurait poussé, alors on aurait eu quelques mérites. Mais là, on ne nous a pas poussé. Au contraire, si nous, on n'y allait pas, il y en avait 50 autres qui auraient été enchantés, et je le comprends parfaitement, d'y aller.
Mais est-ce que, en fin de compte, vous n'avez pas souffert autant que les autres, autant qu'Herzog?
Oh non, moi j'ai eu les pieds un peu gelés, mais bien sûr pas gravement comme Maurice. J'ai eu, Lionel aussi, il en a eu les yeux brûlés, parce que le jour où on a ramené Maurice et Louis du dernier camp, ils étaient très très handicapés. Pour nous, il n'était plus question d'aller au sommet, mais seulement de les ramener. Et moi, je dois dire, ça ne m'a rien privé de ne pas aller au sommet, parce que ça correspondait au fond à ce que j'aime bien dans mon métier, c'était de ramener en quelque sorte la cordée. Vous voyez. C'était ça le truc fondamental. Et au fond, bien sûr, ça m'aurait plu d'aller au sommet. Hein. Mais l'urgence, c'était de les ramener, et ça me plaisait assez, si vous voulez. Il y avait, pour descendre du camp, du dernier camp qui était le camp 5 au camp 4, il y avait un brouillard très très épais, on voyait pas, par moment on voyait un tout petit peu, mettons une centaine de mètres, mais il y avait la plupart du temps on voyait à une distance bien plus courte. Alors finalement on avait enlevé les lunettes pour y voir un peu moins mal, et c'est là où les ultraviolets étant si forts passant à travers les nuages, bon on a eu les yeux brûlés, mais enfin ça va, ça vient quoi, c'est pas...
Ça se forge bien dans ces cas-là l'amitié.
Oui. Ben, vous savez, alors il y a une chose, l'alpinisme est un sport où on est attaché pour le meilleur et pour le pire. Il y a en plus, par rapport peut-être à d'autres sports, cette concrétisation grâce à la corde, quoi. On est attaché, au retour c'est Maurice qui est attaché avec moi, c'est Louis qui est attaché avec Lionel. Bon, ça se fait tout seul, quoi, c'est pas...
Trouver ça tout simple.
Oui, mais d'ailleurs c'est simple, c'est pas... Non, c'est vrai.
Gaston Rabuffat, d'où vous vient ce goût que vous avez pour la chose écrite ?
Ben, tout jeune, hein, j'ai commencé à écrire des petites notes sur les courses que je faisais, voilà. Et ça m'est très difficile d'écrire parce que je n'ai pas fait de grandes études. Et peut-être parce que c'est difficile, ça me plaît bien. Il y a des pages, je les ai refaites plus de 100 fois. Bon, c'est comme ça.
Voilà. Les mots viennent tout seuls ? Vous êtes curieux, vous êtes observateur.
Oui, enfin, au début, là, on a parlé du soleil. Bon, ben, j'essaye de dire ce que je vois, de ce que j'ai pu ressentir, et...
Vous avez vos références littéraires ? Vous lisez beaucoup ?
Non, j'ai pas tellement lu, finalement. Non, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut choisir, et bon, ben, chaque fois que je peux être dehors, je suis dehors. Il y a un livre américain qui a été édité par le Sierra Club, qui est un livre merveilleux. Vous savez que c'est aux États-Unis qu'il y a les parcs nationaux depuis plus de 100 ans, alors que nous, à peine créés, on va le massacrer, le parc d'Avanoise. Bon. Et après, on veut faire comprendre aux Français ce qu'est l'amour de la nature et le besoin qu'on a de la nature. Bref. Pour le Sierra Club aux États-Unis, qui est une association qui a été fondée par John Muir, et dont le but était déjà en 1860 de conserver la nature telle qu'elle était pour le léguer aux autres. Il a sauvé les séquoias à l'époque où, vers le moment de la ruée vers l'ouest, tout le monde voulait abattre séquoias pour faire des maisons ou des bateaux ou peut-être même de la pâte à papier. Bon. Bien, le Sierra Club a édité plusieurs livres, en particulier, alors je fais encore un crochet, un sur le Grand Canyon du Colorado, car le Grand Canyon a été menacé à une certaine époque. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, c'est un des grands drames, si je puis dire, de l'écorce terrestre. Et il est certain que pour les constructeurs de barrages, le Grand Canyon est le plus beau jouet dont ils puissent rêver. Donc, une première fois, juste en amont du Grand Canyon, du Colorado, a été fait un barrage à Glen Canyon. Bien, et tout de suite après, l'administration voulait faire deux autres barrages dans le Grand Canyon lui-même. Ça veut dire que c'était non seulement tuer la rivière vivante, mais c'était également interrompre la vie qui, depuis des millénaires, ne dépendait que d'elle. Bref, l'opinion américaine a été émue. Et finalement, il n'y a pas eu de barrage sur le Grand Canyon. Un autre livre, je dis ça parce que le Sierra Club avait fait un livre pour dire, pour en parler à ce moment-là. Un autre livre qui a été édité par ce Sierra Club, qui est très beau avec et qui est de grande diffusion, ça s'appelle Les mots de la Terre, mots M-O-T-S de la Terre. Voilà, alors moi je préfère lire Les mots de la Terre plutôt que de... Enfin, j'ai bien du respect aussi pour la littérature, j'aime bien lire. Enfin, chaque fois que je peux aller dans la nature...
Mais vous n'avez pas envie de savoir comment les autres écrivent ?
Comment les autres écrivent ? Oui, des fois oui, oui. Mais j'aimerais bien des tas de choses. Je vous ai dit que j'aimerais bien traverser l'Atlantique en bateau. J'aime, chaque fois que je peux aller au Sahara, j'y suis allé. Taziev m'a emmené à l'Etna et Dieu sait si ça m'a plu. Et si je pouvais y retourner, j'y retournerais. J'aimerais lire des tas de livres. Bon, ben, la journée à 24 heures, même si je ne dors pas le moins possible. Bon, ben.
Gaston Rebuffat, vous avez des enfants. J'ai l'impression que vous ne l'accordez pas tellement de temps.
C'est là où, au fond, j'allais dire... j'ai une fille qui a 22 ans, par exemple. Elle s'est mariée en juin dernier. Alors, premièrement, quand c'est les vacances pour tout le monde, c'est le moment où moi, j'ai le plus de travail. Deuxièmement, quand on habitait Chamonix, il n'y avait pas d'école au-delà de 12 ans. Donc, elle était pensionnaire. Et par ailleurs, à cause soit des tournées de conférences, soit des expéditions, j'étais souvent parti. Ça conduit à ceci, c'est que j'additionne les jours où j'ai pu voir Frédéric pendant ses 22 ans. Ça fait peut-être 4 à 5 ans. Et c'est bête. C'est dommage.
Vous le regrettez.
Et bien sûr, oui.
Lorsque vous montez très haut vers les sommets, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des animaux qui s'étonnent de vous voir là ?
Oui, alors, juste, si vous voulez, il y a une chose au fond. Oui, vous avez, ça me plaît bien comme question. Bon, les animaux qu'on rencontre en grande altitude, c'est les bouquetins et encore plus les chamois. Les chamois, je vais vous citer deux exemples, je les ai vus un certain nombre de fois, mais deux exemples. Un jour, après une traversée de la Meije, nous étions au refuge de l'Aigle et de la Meije orientale. Il y a trois sommets à la Meije. La Meije orientale, il y a une grande pente de neige qui va jusqu'au sommet. Et tout, on était là, au refuge de l'Aigle, c'est bon, ça devait être une heure de l'après-midi. Et tout à coup, on a vu les rochers sommitaux de la Meije orientale s'animer. C'était les chamois qui bondissaient du rocher dans la pente, grande pente de neige, raide, et qui en ramassent. Quand je parle de parenté avec la neige, ça, les chamois, Dieu sait s'ils l'ont. Et qui, c'était merveilleux, c'était beau à voir. Bon, et qui descendaient en ramasse merveilleusement. Une autre fois, c'était dans les Dolomites. J'étais avec Bernard Pierre, on faisait la face nord-ouest de la Civetta, qui est une voie longue, haute, c'est 100 mètres d'innivellation. Et difficile, et à un moment donné, on remonte un couloir. Ce couloir était coupé de ressauts et de replats. Et je venais de franchir un ressaut, j'arrivais sur un replat, par conséquent, quand une petite pierre est tombée à mes côtés. J'ai levé la tête et j'ai vu la mère et le petit, les deux chamois, la mère et le petit. On s'est regardé un moment, puis c'est eux qui ont pris la décision. Ils ne pouvaient pas remonter, ils ont plongé vers moi. Et au niveau du ressaut, c'est-à-dire le petit replat où j'étais, en haut du ressaut, ils m'ont frôlé. Et là, la mère a sauté. Il y avait le petit qui suivait immédiatement, les yeux fermés, si je puis dire, la mère. Et la mère savait que le ressaut, elle ne pouvait pas, elle, le franchir. Mais que sur la droite, rive droite, donc du couloir, à hauteur du replat, sur la droite, il y avait une vire où elle pouvait, par où elle pouvait s'échapper. Elle a donc sauté là. Le petit, au lieu de sauter sur sa droite, il a sauté tout droit d'abord. Et c'était extraordinaire le changement, la cambrure qui lui a permis de, non pas tomber dans le vide, mais d'aller vers sa mère. Là, les deux se sont retrouvés, il y a eu comme un échange, un petit regard entre les deux, et ils sont partis. Bon, alors, Dieu sait, les balais des hommes, c'est beau, mais c'est pas plus beau. Et, bon, si je parlais tout à l'heure de la Vanoise, au fond, c'est que moi, je pourrais toujours grimper à 3000 ou à 4000 pour aller voir les bouquetins et les chamois. Mais je voudrais, c'est que tout le monde puisse les voir. Parce que, au fond... on a besoin de blé, ça c'est clair. On a besoin de blé, de pétrole, d'acier, mais on a besoin aussi de nourrir son cœur. Et la chose importante, je crois, c'est que l'homme a besoin d'émerveillement. C'est pas du superflu, c'est pas quelque chose en plus. Il a besoin d'être étonné, de s'émerveiller. Et c'est seulement des choses comme cela. Dieu sait, on s'émerveille que des gens aillent dans la Lune, on s'émerveille à juste titre, on s'émerveille devant certaines œuvres d'art, mais tout le monde ne peut pas aller sur la Lune. Par contre, la nature, le soleil, tout le monde peut aller le voir. Les chamois, si on maintient la Vanoise, tous les bouquetins, tout le monde pourra aller les voir.
Gaston Rebuffat, lorsque vous êtes sur vos parois verticales, à quoi pensez-vous ?
Et je suis très terre à terre, je pense où je mets les pieds et où je vais mettre les mains. Voilà. Non, il faut bien être... l'alpinisme. J'ai la chance d'être là, ou la grâce d'être là. Et bien souvent, on crie contre les jeunes imprudents, qui, etc. Et en fait, c'est que les accidents, ils arrivent à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et que ça arrive également aux alpinistes les plus forts, les plus confirmés. Alors, chaque chose a son temps. Quand je grimpe, je pense uniquement, très serré, si je puis dire, à mon escalade, à je vous le disais tout à l'heure, à bien porter le poids du corps sur mes jambes, à mon équilibre et à rien d'autre. Là, il ne s'agit pas de se distraire une seconde, d'avoir la tête ailleurs.
Est-ce qu'il y a des montagnes qui tuent ?
Ah non, ça c'est... Enfin, non, des montagnes qui tuent. Il y a une formule qui a fait fortune parce qu'elle est fausse, c'est l'alpomycide. Bon, il n'y a pas de montagne qui tue. Il y a des montagnes où le rocher est bon, où le rocher n'est pas bon. Bon, la nature, elle est ce qu'elle est. La pesanteur existe pour nous. Pendant que nous parlons, ben, y a des gens de l'autre côté de la Terre qui sont, on pense, la tête en bas. Bon, la pesanteur existe aussi pour la neige. Ça veut dire que de temps en temps, elle part en avalanche. Bon, c'est les règles du jeu. C'est comme ça. C'est à nous de le savoir et à nous d'en tenir compte. C'est trop facile de dire c'est la montagne qui, etc. C'est pas vrai, c'est comme ça.
Enfin, tout ce que vous dites, Gaston Rebuffat, c'est un chant très simple, un chant très pur à la gloire du métier de guide.
Enfin, c'est très gentil ce que vous me dites, mais...
En tout cas, je l'ai voulu gentil.
Mais oui, mais c'est seulement exact, c'est même pas... Hein, j'ai pas c'est, ça se passe comme ça, quoi, c'est pas autrement.
Votre dernier livre, Glace, Neige et Roc, pourquoi l'avez-vous écrit ?
Alors, c'est un livre... depuis longtemps, j'aime bien enseigner, ça m'a toujours plu. Alors, je voulais faire un livre sur la technique. Puis finalement, la technique, Dieu sait si elle est nécessaire et même indispensable, mais en fin de compte, il n'y a rien de plus ennuyeux que la technique. La technique, c'est bien, surtout quand on l'a oubliée. Alors, c'est la raison pour laquelle, au lieu que ce soit un truc de technique sec, c'est davantage une initiation à ce sentiment qu'est l'altitude, qui est donc pas simplement grimper pour grimper, pas simplement poser la main, mais il y a un contact entre les mains du grimpeur et le rocher, avec la neige également. Il y a une matière, il y a un beau granit, c'est quelque chose. Quand on touche un beau granit, et on se sent bien, ça accroche bien. Voilà, il y a cette parenté, si vous voulez. Et puis alors l'altitude, c'est beaucoup de choses. C'est une certaine teinte du ciel, c'est un certain goût de l'air. Voilà, c'est...
Vous n'avez jamais voulu donner de leçons dans vos livres, de toute manière. Vous avez voulu témoigner
des choses. Je rends compte d'un métier, je rends compte de mes ascensions, mais non, je ne suis pas là. En fait, je ne suis pas un missionnaire. Simplement, je ne suis pas là pour convertir. Je suis là pour rendre compte. Je dis ça existe. Et ça, moi, ça m'a procuré de belles joies qui sont les suivantes. Bon, ben, pourquoi pas vous ?
Gaston Rebuffat, quel est l'avenir d'un guide aujourd'hui ?
L'avenir d'un guide aujourd'hui ? Moi, je crois que le métier de guide existe depuis donc 150 ans et ça va continuer. Le métier de guide continuera.
Mais le jour, Gaston Rebuffat, où vous ne pourrez plus monter sur les sommets ?
Oui, je la regarderai. Ou bien alors peut-être je traverserai l'Atlantique sur un bateau pas trop difficile, ou je ne sais pas, il n'y a pas que la montagne.
Mais vous saurez encore les raconter.
Oui, mais moi, j'aime bien les souvenirs, mais je préfère beaucoup les projets. Les souvenirs, c'est pas mal, mais c'est bien mieux les projets.
Un montagnard comme vous, comment voit-il la mer ? Et chez vous, c'est quelque chose de très délicat, puisque vous êtes né près de la mer et que vous êtes éloigné pour aller au sommet.
Ben, il y a... Enfin, la mer, c'est un grand espace, c'est une grande étendue. La ligne horizontale suggère l'infini. Par ailleurs, il y a une parenté entre donc, l'homme qui est sur un bateau et... je parle de la navigation à voile. Hein. La navigation à vapeur, je ne veux pas exagérer, je ne suis pas compétent. C'est un peu comme si on est dans un train. Mais sinon, bon, il s'agit de trouver le vent, il s'agit d'en tirer parti de ce vent. Il y a une parenté. Bon, ça veut dire les gestes que fait un marin sont différents des gestes du montagnard. Mais finalement, la démarche sentimentale est la même, au fond.
Il y a beaucoup d'alpinistes en France.
Je ne saurais pas vous dire le chiffre, mais je pense qu'il doit bien y avoir... je crois qu'aucun membre du club alpin, il doit y avoir à peu près 40-45 000 membres. Et il y a beaucoup de personnes qui font de la montagne qui ne sont pas membres du club alpin. Donc, il y a peut-être une centaine de mille personnes qui non seulement grimpent, mais qui aussi font de très belles promenades, des excursions, et c'est pas plus mal.
Gaston Rebuffat, en fin de compte, vous n'aurez vécu que pour la montagne.
Oui, bien sûr. Enfin, j'ai eu la chance d'aimer, au fond, que ça me prenne. Et, mais enfin, non, j'ai aussi ma famille, j'ai aussi... Oui, à la montagne, c'est mon métier, un métier que j'ai choisi, que j'aime beaucoup. Mais
où êtes-vous le plus heureux, à 8000 mètres ou à ras de terre?
Non, mais chaque chose en son temps. Il est certain que je suis heureux, très heureux sur un sommet, mais même d'être là face à vous, je suis tout aussi heureux.
Merci Gaston Rebuffat.